RCF. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, la territorialisation des transitions et le rôle que peuvent jouer les entreprises. En effet, dans un monde où tout change très 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 vite, que ce soit au niveau écologique, économique et social, il est crucial de réfléchir à comment chaque territoire peut s'adapter à ces transformations tout en mettant en valeur ses particularités locales. Alors, quelle place pour les entreprises? Quelle place peuvent-elles prendre dans ce processus? C'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble dans cette émission. Quand on parle de territorialisation des transitions, on veut dire que les changements nécessaires pour le développement durable ne peuvent pas être les mêmes partout. Chaque territoire a ses propres caractéristiques, son économie locale, ses ressources naturelles, ses défis sociaux et culturels, son tissu économique, politique, associatif. Et c'est là que les entreprises locales ont un rôle clé à jouer. Enracinées dans leur territoire, elles comprennent bien que les enjeux locaux peuvent proposer des solutions innovantes et adaptées, mais en ont-elles réellement conscience? Les entreprises ne sont pas seulement des acteurs économiques, elles sont aussi des partenaires sociaux et environnementaux. En adoptant des pratiques responsables, enracinées dans la RSE, elles contribuent à la résilience non seulement de leur propre activité, mais aussi de tout le territoire. Par exemple, en favorisant l'économie circulaire, elles peuvent réduire les déchets et mieux utiliser les ressources locales. Leur engagement peut aussi inspirer d'autres acteurs, créant ainsi un cercle vertueux pour tout le territoire. Mais pour que les entreprises puissent jouer pleinement leur rôle dans la territorialisation des transitions, elles ont besoin de soutien. Les collectivités locales doivent créer un environnement propice à l'innovation et à la collaboration. Cela peut passer par un meilleur accès au financement, des partenariats publics-privés ou encore des incitations financières et des réglementations adaptées. Un soutien institutionnel nécessaire et solide est donc indispensable pour permettre aux entreprises de s'engager sur le long terme dans la transition. Mais je le répète, encore faut-il qu'elles en aient réellement conscience. La territorialisation des transitions demande aussi une approche inclusive et participative. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que les entreprises doivent travailler main dans la main avec les autres acteurs du territoire, les citoyens, les associations, les écoles, les centres de recherche. Ce dialogue est essentiel pour construire des solutions durables et partagées, et il permet aussi de croiser les savoirs, d'intégrer les préoccupations de chacun et de créer des synergies positives pour tout le territoire. Bref, en résumé, la territorialisation des transitions est une occasion unique de repenser notre modèle de développement à une échelle locale. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions cette semaine. Vous l'avez compris, on va parler de la territorialisation des transitions. Quelle place pour les entreprises? Un dossier et un 7 minutes pour changer le monde qui vous est concocté avec de nombreux acteurs. Et on va plutôt s'intéresser à un territoire, le territoire de Montargis. Montargis et le Gâtinais avec Luc Bellière que nous avons déjà reçu dans l'écho des solutions. Luc Bellière qui est le Grand Prix Philibert Vrault de cette année. Mais on aura aussi la joie d'accueillir Franck Genoff qui est directeur de la RSE et de l'engagement à AEMA Group, qui regroupe des mutuelles telles que Aesio, Abeille, Massif. Et il est aussi administrateur de l'ORS, qui est l'observatoire de la RSE. Et en fin d'émission, pour nos 7 minutes pour changer le monde, eh bien j'aurai l'immense plaisir de recevoir Philippe Jouani, qui est président de la Fédération des acteurs de la propreté. Vous verrez que c'est une fédération qui est très, très engagée sur la question de la RSE, du social. Elle est intégrée même à l'intérieur de la convention collective autour de 18 piliers, il nous les présentera, et particulièrement celui qui est lié à la question des territoires. On retrouvera aussi Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On parlera réforme de l'assurance chômage, et vous verrez qu'il peut y avoir des liens justement avec ce que nous échangerons avec nos invités dans le dossier de l'écho des solutions. Mais comme toutes les semaines, on commence avec notre invité Éco, et vous savez que dans le territoire, il y a des entreprises. Et cette semaine, eh bien, c'est la semaine de la sécurité routière au travail, parce que bien évidemment, on utilise nos voitures, nos vélos, nos trottinettes et nos pieds pour se rendre à nos travaux. Et puis d'autres utilisent leur voiture, leur camion pour travailler. Et c'est Nicolas Tronchon qui est notre invité Éco de cette semaine. C'est un expert en mobilité. On le retrouve tout de suite. C'est notre invité Éco de cette semaine.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis avec mon invité éco de cette semaine. Il s'agit de Nicolas Tronchon, directeur, fondateur de Transsway, une société qui accompagne les entreprises dans leur mobilité douce. Bonjour Nicolas.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler de mobilité parce que dans le monde de l'entreprise, il y a différents enjeux. Il y a le business, bien évidemment, mais il faut que les collaborateurs, les collaboratrices arrivent au travail en bonne santé et entiers de préférence. Cette semaine, c'est la semaine de la sécurité routière au travail. Le dernier chiffre qu'on a en date, hein, c'est 2021, 450 morts en situation de travail, 308 sur la destination trajet domicile-travail, le reste sur des activités liées au travail. La question de la mobilité, Nicolas Tronchon, ça vous connaît. Comment aujourd'hui les entreprises abordent cette question de la mobilité ? On parlera peut-être un peu plus des risques après.
Vous l'avez dit, Patrick, tout à l'heure, la mobilité est importante pour se rendre au travail. Et on a évidemment énormément besoin de nos collaborateurs dans l'entreprise pour faire de l'économie, du business avec nos clients. Et donc, du coup, ces salariés sont pour la plupart, en grande majorité, au boulot, au bureau. Et donc, ils se déplacent. Voilà. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire, la mobilité. C'est que ça permet de transporter les gens.
D'un point A à un point B, ouais.
Voilà, et on a besoin de les avoir en bonne santé, évidemment, pendant leur travail, mais juste avant et juste après leur travail. Et donc, ils se déplacent correctement. Alors nous, notre cœur de métier, notre histoire, c'est plutôt la mobilité alternative à la voiture. Malheureusement, traditionnellement, les gens sont quand même majoritairement dans leur voiture ou dans des moyens motorisés. Donc, on travaille inverser cette tendance. Ils sont quand même majoritairement sur des véhicules motorisés.
Et est-ce que la question de la mobilité, on le voit un peu partout, hein. Aujourd'hui, on encourage beaucoup, il y a même des primes mobilité douce, hein, qui sont apportées par les entreprises, prise en charge du vélo à 50%, 75% si vous prenez un transport en commun plutôt que votre voiture. Est-ce que la manière de se déplacer en entreprise, en tout cas sur la destination trajet domicile, parce qu'il y a aussi les trajets de travail, les chauffeurs routiers, les taxis, les vélos cargo, tout cela évidemment aussi travaille avec leur outil de déplacement, leur outil de mobilité.
Alors quand on travaille sur ces sujets avec les employeurs, en fait, on classifie toujours les mobilités dans deux grands containers. Le container de la mobilité pour se rendre au travail et puis le container de la mobilité professionnelle, celle que vous évoquez, avec le chauffeur routier, le chauffeur de taxi, etc., etc. Est venu se greffer, évidemment, sont venus se greffer les nouvelles mobilités, comme le plombier à vélo, comme l'électricien qui se déplace avec ses caisses à outils dans le métro pour aller sur son chantier. Et toutes ces mobilités sont agrégées et doivent être mises en sécurité, puisque, évidemment, on doit, sensibiliser ses collaborateurs pour les rentrer dans un plan média RSE, entre guillemets. Et puis, on doit aussi les encourager à faire des mobilités alternatives. Et là, on a souvent un problème, où on a souvent des objections des employeurs qui nous disent « oui, mais c'est dangereux ». La réalité et la vraie vie, c'est que le vélo, la mobilité douce n'est pas plus dangereux que la mobilité en voiture. Et en tout cas, sur le plan de la sécurité routière et de la prévention associée, il faut le mettre sur le même plan. C'est-à-dire qu'on fait de la prévention pour finalement le bien conduire dans sa voiture. On doit également faire de la prévention sur le bien conduire son vélo, sur le bien utiliser une trottinette.
Et est-ce qu'il y a eu, avec l'arrivée du télétravail, sur ce que je vais appeler ce fractionnement du travail en entreprise, entre les jours de présence, les jours d'absence, une augmentation des risques liés à la mobilité ?
Radicalement, on est sur une torsion des usages. On était depuis 15 ans avant 2019 sur une lente et progressive progression des mobilités alternatives à la voiture. On a eu un séisme pendant quelques années suite à la crise sanitaire et un repositionnement des mobilités, malheureusement, en faveur de mobilités carbonées pour la plupart, et beaucoup sur le vélo, évidemment, et beaucoup sur le télétravail. Et ça, ça induit ce qu'on appelle une torsion. Moi, j'appelle ça une torsion des mobilités. Et globalement, je dirais qu'on a un nombre de gens très importants qui se sont reportés sur la voiture suite crise sanitaire. Et heureusement, beaucoup sur le vélo et les mobilités alternatives. Et ben, c'est deux facteurs de risque. Voilà. C'est deux facteurs forts de risque, puisque on a de plus en plus de gens qui sont dans leur voiture, sur un vélo, dans une trottinette. Et parallèlement à ça, on a beaucoup de télétravail, donc des nouvelles pratiques de mobilité du quotidien, de proximité, massivement en voiture, massivement en vélo et en marche dans la ville. Et tous ces éléments sont des facteurs de risque.
Alors, vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Transway, qui développe en fait un système applicatif pour encourager aux mobilités douces. On va dire qu'il y a, il y a deux offres. Il y a l'offre grand public, c'est-à-dire vous et moi, on peut aller télécharger une petite application qui s'appelle WeFlow. Et en fait, vous allez être encouragé et fidélisé à utiliser plus vos vélos que votre voiture. Et cette même offre peut être déployée dans le monde de l'entreprise. Quand on développe une application comme ça, est-ce que la question de la sécurité, elle vient ? Je vous dis ça parce que je suis un utilisateur fréquent des city scouts parisiens. Et à chaque fois que je démarre, on me met des petites consignes de sécurité. Mettez des gants, mettez votre casque. Si vous avez bu, ne prenez pas le scooter, etc., etc. Est-ce qu'on intègre cette question de la sécurité au travail dans ce système applicatif de fidélisation ?
La réponse est oui. C'est de la sensibilisation. Finalement, c'est ce qu'on appelle le nudge dans le jargon. C'est-à-dire que je vais venir vous sensibiliser, potentiellement utiliser des biais de compréhension ou de sensibilisation pour atteindre notre objectif, qui est de vous sensibiliser. L'enjeu toujours de l'employeur qui travaille avec nous et qui met en œuvre un plan de mobilité lié aux mobilités alternatives à la voiture et pas que, c'est bien évidemment d'opérer des basculements de comportement, mais d'accompagner ces basculements de comportement, d'un plan de sensibilisation, notamment sur la prévention en sécurité routière, puisque quand vous prenez votre vélo, votre city scoot, votre scooter personnel, votre vélo, votre je ne sais quelle autre mobilité,
vos gyroscope, vos baskets, tout simplement des fois,
etc., vos baskets pour aller acheter le pain, quand vous êtes en télétravail, vous rentrez dans un champ 1, je dirais d'un point de vue légal, de proximité du travail et donc de couverture assurantiel lié à votre déplacement, lié à votre travail. Et donc, le responsable d'entreprise est responsable socialement de cela. Et le deuxième élément qui est important, c'est que vous augmentez les risques.
Voilà. Allez, pour terminer, un petit clin d'œil à nos amis cyclistes. Je vous rappelle que les feux rouges ne sont pas facultatifs, que le casque et les écouteurs sont interdits quand vous êtes à vélo et qu'un petit regard autour de vous des autres utilisateurs de la route n'est pas négligeable. On vous dit ça non pas parce qu'on vous aime pas, mais au contraire parce qu'on vous aime bien. Merci beaucoup Nicolas Tronchon. Je rappelle que vous êtes directeur et fondateur de l'entreprise Transway qui accompagne les entreprises sur la question des mobilités douces et des changements de mentalité. Merci d'avoir été notre invité éco. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, je suis avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors cette semaine, vous souhaitez nous parler du projet de réforme de l'assurance chômage présenté par le Premier ministre il y a quelques jours. Pourquoi, à peine annoncée, est-elle déjà si fortement critiquée, cette énième réforme de l'assurance chômage ?
D'abord, effectivement, il faut rappeler à nos auditeurs que c'est la troisième réforme en cinq ans. Après 2019 et 2021, le gouvernement veut de nouveau réformer le régime de l'assurance chômage et durcir encore les conditions d'ouverture des droits, réduire la durée d'indemnisation et augmenter l'âge pour bénéficier d'une allocation plus longue pour les seniors. On comprend dès lors que certaines organisations syndicales dénoncent une réforme, je les cite, « violente » et que Force ouvrière ait parlé du pire durcissement des conditions d'indemnisation qui soit mis en œuvre depuis toujours, ni plus ni moins.
Alors, en quoi peut-on parler d'un durcissement ? C'est une question piégeante et piégée peut-être.
Alors, un seul exemple, et ce sera simple, il faudra dorénavant avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers pour être indemnisé. C'est un vrai changement, puisque auparavant, c'était 6 mois au cours des 24 derniers mois.
Alors, on comprend la réaction des organisations syndicales, mais quelles sont les motivations du gouvernement, Pierre ?
Je crois qu'elles ne sont pas seulement financières. Alors c'est vrai, le durcissement de ces conditions d'indemnisation va générer 3,6 milliards d'euros d'économies, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Dans un contexte où la plupart des entreprises rencontrent les plus grandes difficultés pour recruter, on peut quand même légitimement se poser la question de savoir s'il est normal que près de 3 millions de demandeurs d'emploi soient indemnisés par Pôle emploi. On peut donc comprendre la nécessité de dispositifs qu'on va qualifier d'incitatif, voire en tout cas plus contraignant.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une inadéquation, entre les emplois et les qualifications des personnes au chômage, Pierre ?
Peut-être. Mais dans un contexte de forte tension du marché du travail comme celui que nous connaissons, une entreprise, je vous garantis, une entreprise qui rencontre un candidat pas ou peu qualifié, mais qui veut vraiment travailler, saura forcément prendre le temps et consentir les efforts pour le former.
Bien sûr, à la condition, bien évidemment, de s'intéresser aussi aux personnes qui sont les plus fragiles.
Oui, et c'est par là que je voulais conclure cette chronique, car vous savez comme moi qu'il y a des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Et j'allais dire, quels que soient les temps d'indemnisation qu'on propose, ces personnes ont du mal à retourner vers l'emploi, et il faut un suivi vraiment très personnalisé pour leur permettre de revenir. Alors, je crois que France Travail doit vraiment améliorer sa capacité à accompagner ce type de public. Et vous aviez dernièrement le patron de France Travail sur notre antenne. Et tous les dirigeants aussi, tous les dirigeants que nous sommes, doivent être sensibles à cet élément, car nous savons tous que la valeur d'une société se mesure à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles.
Merci beaucoup Pierre pour cette belle introduction, puisqu'avec Luc Bélière qui a été Grand Prix Philibert Vrault de cette année de la Fondation des EDC, Franck Janowski et Philippe Jouani, on va justement explorer comment le monde du travail, le monde de l'entreprise peut être attentif à toutes et à tous pour développer durablement son territoire. C'est l'objet de notre dossier de l'émission de cette semaine et de nos 7 minutes pour changer le monde. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve d'ici une semaine. On continue en musique dans l'écho des solutions. Et on se retrouve avec tous nos invités pour le dossier. Mama, take this badge off of me. Can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. C'était Bob Dylan, Knocking on Heaven Doors sur RCF. Nous, on ouvre tout de suite le dossier de cette semaine.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis très très heureux de pouvoir accueillir trois nouveaux invités. Tout d'abord, Luc Bellière, que vous connaissez déjà, dirigeant d'Annabel Group, cofondateur du PTCE Ciel, situé dans le secteur du Montargois et du Gâtinais, et puis aussi à l'origine de cette association, de cette coopération de différents acteurs du monde économique de l'entreprise sur son territoire qui s'appelle Percé3C. Bonjour Luc.
Bonjour Patrick.
Et puis avec nous, Franck Janowski, directeur de la RSE et de l'engagement d'Amea Group. Alors Amea Group comprend des assurances et des mutuelles telles que Aesio, Abeille, Massif. Vous êtes aussi administrateur de l'ORS. Bonjour à vous, Franck.
Bonjour Patrick et bonjour Luc.
Pourquoi est-ce que les entreprises ont si peu conscience de leur impact territorial ? On sait que 66% d'entre elles sont engagées par des actions spécifiques et particulièrement de RSE, hein, responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans le développement de leur territoire, alors que finalement les grands groupes le sont beaucoup moins et ont beaucoup plus conscience d'agir. Est-ce que, Luc, vous qui êtes au cœur d'un territoire du Montargois, du Gâtinais, comment ça se fait que 66% de ces entreprises sont engagées et qu'en même temps elles aient si peu conscience de leur engagement ?
D'abord parce que leur engagement ne répond pas à une contrainte législative, contrairement aux grands groupes, hein, où effectivement la RSE est une obligation. Dans les entreprises de petite taille et moyenne taille, finalement, l'engagement territorial est une nécessité. On ne croit pas dans le désert. Donc une entreprise, pour se développer, elle est forcément en interaction constante avec son territoire et elle est amenée à avoir des implications. Et c'est vrai que quand on interview des entreprises locales en disant « est-ce que tu as un engagement territorial ?», généralement, ils disent « bah non, on n'a pas trop le temps ». Puis quand on creuse, on se rend compte que ils sponsorisent le club de foot parce que ils ont un de leurs employés qui est l'entraîneur. Ils sont engagés sur le nettoyage des rivières parce que ils ont des employés qui sont des pêcheurs et on se rend compte qu'il y a énormément d'engagement territorial mais qui n'est pas formalisé en tant que tel puisque ça répond pas à une démarche proprement structurée mais plus une nécessité. Quelque chose nécessité ou quelque chose de volontariste normal puisque finalement participant au territoire, ils trouvent tout à fait normal de s'investir dans une association pour la santé, en local, enfin.
On dit toujours qu'elles sont un peu comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'elles font développement territorial sans réellement le savoir, c'est ça ?
Exactement. Ou en tout cas, elles ne pensent pas qu'elles puissent rentrer dans cette case-là. Elles font des choses en conscience, mais ne se rendent pas compte de cet impact positif et de cette interaction avec le territoire.
Franck Janowski, comment vous réagissez ? Parce que vous êtes à la tête de l'engagement et de l'RSE, de ce que j'appellerais un grand groupe. Et au-delà de ça, et en même temps, j'ai envie de dire, chacune de vos agences sont des agences qui sont incluses dans des territoires. Et chaque directeur d'agence est quelque part un directeur d'une petite PME territoriale.
Oui, alors juste pour rebondir sur le terme de Monsieur Jourdain, c'est-à-dire faire sans savoir, c'est un peu l'état d'esprit d'un grand groupe comme celui d'AEMA qui fait partie de l'économie sociale et solidaire et qui donc met le projet humain en priorité plus que sur les projets au service du capital, on est plus sur au service du projet humain. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que pour le groupe AEMA et pour ses entités, donc pour nous, effectivement, on sait, parce qu'on est un grand groupe, qu'on a un impact sur les territoires, mais je comprends très bien, et je rejoins ce que disait Luc, les petites entreprises ou les PME ou les TPE qui sont au sein des territoires, généralement, elles peuvent s'interroger sur le fait de savoir si elles contribuent à faire vivre ces territoires. Et elles ne le savent pas forcément parce que elles ne savent pas le mesurer et la réglementation, en plus, ne leur demande pas de le mesurer. Une petite parenthèse, malgré tout, sur ce sujet-là. Il faut savoir que le Green Deal européen fait évoluer aussi les choses. Et jusqu'à présent, les grandes entreprises avaient une obligation de RSE et surtout d'exercice de transparence et de reporting réglementaire qui était assez auto-centré sur leurs risques financiers liés à des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et depuis, un terme que vous allez entendre parler de plus en plus, qui est le terme de CSRD, on va se retrouver dans un autre c'est vraiment un changement de paradigme. On va se retrouver dans la solution, dans la situation dans laquelle on doit demander aux entreprises de faire une analyse de double matérialité. Mmh. Et pas uniquement sur la matérialité financière, c'est-à-dire les risques financiers de son activité, il y a des enjeux sociaux et environnementaux, mais également une analyse sous le prisme de l'impact vis-à-vis de ses parties prenantes, vis-à-vis de sa chaîne de valeur. Mmh. Et donc là, tout naturellement, de plus en plus d'entreprises vont être assujetties à se poser la question de savoir quel est son impact dans dans son écosystème, mmh. et pas uniquement sur son activité, mais plus sur les enjeux environnementaux de son territoire, sur son impact sociétal au sein de son territoire. Mmh. Et ça, c'est une grande nouveauté que l'on doit quelque part déjà au Green Deal européen.
Et justement, vous m'avez coupé ma question, c'était justement la place de la CSRD dans ce dispositif. Est-ce qu'elle ne va pas, justement, Luc, donner la possibilité aux entreprises d'avoir peut-être plus conscience de cet impact parce qu'elles vont devoir davantage réfléchir, mettre en lumière. Dernièrement, j'avais des personnes spécialisées sur la question de la CSRD qui me disaient finalement, le grand avantage, c'est que le financier va enfin parler avec la RSE.
Oui, tout à fait. Alors, ça présente un certain nombre d'avantages et en même temps, ça présente des contraintes pour les TPE et les PME parce que, effectivement, de quelque chose qu'ils faisaient assez naturellement, tout d'un coup, il faut rentrer dans un cadre. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas être très simple. D'où l'intérêt aussi de créer des collectifs comme PERCE3C, qui est l'association que j'ai créée pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative et collaborative. C'est vraiment de les aider à structurer cette démarche, à la mettre en commun, et de faire des actions en commun. Parce que quand on est 1, 2, 3, 4, 10 salariés, c'est assez difficile aussi de consacrer du temps à pouvoir structurer pour pouvoir répondre aux appels d'offres qui vont rentrer dans le cadre de cette CSRD. Mmh. Moi, je trouve que ça va être un effet accélérateur formidable, mais il faut être quand même très, très prudent et il faut aussi se doter des outils pour aider ces entreprises à rentrer dans le cadre.
On parlera peut-être de la place justement des politiques et des politiques publiques dans ces coopérations des entreprises, mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle aujourd'hui peut-être des politiques publiques, des métropoles, des villes, des regroupements de communes, de mesurer aussi l'impact de ces entreprises au-delà d'un impact économique, mais aussi de mesurer l'impact social et par cette recension des actions menées, comme vous disiez, dans le club de football, dans l'association d'à côté, de dire voilà aux entreprises, voilà aussi l'impact que vous avez et que peut-être vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas.
Alors oui, mais on se retrouve dans la même difficulté, puisque en fait les petits et moyens territoires, les PMT, sont effectivement aussi dans cette même difficulté de ne pas avoir les moyens, la structure, pour pouvoir correctement accompagner ces PME. Donc dans les grosses métropoles, je ne doute pas de leur capacité à venir aider et structurer cela. Mais il y a un nœud ici sur comment est-ce que un territoire qui n'a jamais fait de mesure d'impact, tout d'un coup, peut aider des entreprises à en faire. Enfin, vous voyez.
Comment est-ce qu'on peut justement accompagner les entreprises à se dire finalement, la RSE, le développement durable d'un territoire, c'est pas uniquement l'environnement, c'est aussi toutes les parties prenantes de ces 17 objectifs du développement durable. Aujourd'hui, on est plutôt au cœur de l'ODD8, mais il y en a 17. On parle aussi des partenariats et des alliances avec le rameau. Comment est-ce qu'on peut sortir le grand public de la prise de conscience que le développement durable, c'est pas uniquement l'environnemental?
Tout naturellement, en expliquant déjà que pour arriver à la neutralité, la fameuse neutralité carbone d'ici 2050, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'actions à réaliser, mais qui impactent avant tout une transition juste. Et quand on parle de transition juste, ça veut dire qu'on met automatiquement l'accent sur la thématique sociale, sociétale. Et à titre d'exemple, pour le groupe AMA, il est évident que la première démarche à réaliser, c'est d'être plus proche du territoire, ne serait-ce que en faisant en sorte que l'ensemble des 20 000 collaborateurs soient au plus proche des territoires, que les représentants des assurés soient également en permanence en animation avec les collectivités locales au plus proche des territoires, pour essayer de travailler sur des innovations, pour accompagner des start-up, pour accompagner des des animations avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et ainsi de suite. Voilà, donc sur les fameuses CRES. Donc c'est tout en fait cette mission d'animation des territoires sur les thématiques sociales qui indirectement permettent d'accompagner cette transition juste qui permet de préserver leur environnement. Donc il faut le prendre à l'inverse.
Concrètement, vous avez... Oui, Luc, vous voulez continuer.
Oui, moi je pense que c'est déjà accepter la complexité du monde et envisager cette approche systémique, c'est-à-dire de voir que tout fait système et que tout est lié. Et on ne peut pas travailler sur l'environnement sans tenir compte des impacts sociaux de cette transformation nécessaire, comme le disait Franck. Et d'arriver à comprendre que la complexité, ça n'est pas forcément compliqué, c'est juste de comprendre que tout est en interaction constante. Et on sortir des silos, des sujets de spécialistes et d'experts, mais aborder tous ces sujets de manière un peu parallèle. Et effectivement, quand on fait une action d'insertion, eh ben, d'impliquer des notions environnementales, parce que l'insertion sur le long terme ne sera pas viable si enfin, on ne peut pas travailler les sujets séparément.
Alors justement, Franck Janowski, comment avec AEMA Group, Massif, Aesio, Abeille, vous avez même un fonds d'investissement hein, qui existe pour accompagner justement ces lois. Quels sont les différents véhicules que vous utilisez? Alors, je ne parle pas de véhicules à moteur, hein, mais je parle bien de véhicules financiers. Mais quels sont les véhicules que vous utilisez? Et concrètement parlant, quelles sont les belles réalisations dont on parle beaucoup de solutions? Moi, j'aime bien parler des solutions. Quelles sont les belles réalisations dont vous pouvez témoigner que grâce en fait finalement à ce maillage territorial, AEMA Group a pu faire émerger?
Bah, effectivement, le groupe AEMA, c'est bien sûr un assureur, mais pas que. C'est un investisseur également. Et puis, c'est aussi une gouvernance atypique, hein, puisque ça fait partie du monde mutualiste, avec aucun actionnaire à rémunérer, hein, puisque le groupe appartient à ses assurés. Et avec ces trois sujets-là, on a vraiment trois leviers qui permettent d'accompagner la transition et d'être au plus proche des territoires sur ces sujets. D'une part, en tant qu'investisseur, eh bien, on essaye de flécher nos investissements justement sur des startups innovantes dans les territoires, que ça soit par le biais de la Fondation Massif, par exemple, où là, le concept est assez simple, c'est-à-dire on essaye d'identifier des jeunes pousses innovantes qui, au sein d'un territoire, veulent faire émerger une solution. Et l'avantage de le faire dans un territoire bien limité, au niveau local, permet d'avoir la possibilité d'identifier si c'est duplicable ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est d'être en capacité de financer pas uniquement des initiatives ou des projets nationaux, mais plutôt des projets très locaux qui, à une échelle d'expérimentation, permet de vérifier l'intérêt pour telle collectivité, voir si c'est multipliable ou pas.
Alors, oui. La question que je me pose parfois, c'est une jeune pousse vient vous voir, vient pousser votre porte, c'est le cas de le dire. Une jeune pousse arrive vers vous. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de dire non, on ne va pas vous accompagner parce que ce n'est pas un besoin pour le territoire, ce n'est pas la nécessité. Aujourd'hui, il y a d'autres associations, fondations, je pense à Break Poverty, je pense à la Fondation Territoriale de Loire-Atlantique, qui ont fait émerger des besoins territoriaux forts en disant voilà, le territoire pour se développer, il a besoin de ça, et de dire à cette jeune pousse, bah, écoutez, sur ce territoire-là, votre idée, elle est excellente, mais pas pour l'Ain, peut-être pour la Mayenne.
Tout à fait, ça peut être le cas. On peut très bien estimer que, je sais pas moi, une innovation sur un besoin de pallier à une zone blanche de mobilité qui n'existe pas dans un territoire mais qui émerge dans un autre, on peut essayer de proposer cette activité dans une autre collectivité. C'est tout à fait réalisable.
Luc Bélière, on parle alors quand on évoque votre travail, c'est une trilogie en fait chez vous. Il y a d'abord votre entreprise Annabelle Group. Il y a Percé3C, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est une association qui regroupe les acteurs économiques d'un territoire. Et puis le PTCE Ciel. J'ai le sentiment quand on en parle, c'est toujours un peu, mais c'est peut-être volontaire ou c'est peut-être la réalité et la conséquence de tout ça. Qu'en fait, il y a toujours un petit peu de flou. On ne sait pas qui pilote quoi, etc. Est-ce que c'est normal parce que finalement, on est arrivé à la quintessence des coopérations et à un moment donné, on a du mal à distinguer en fait l'apport d'un Bell Group, Percé3C et le PTCE. Comment tout ça coordonne et j'aimerais que vous essayiez de nous expliquer un petit peu ces coopérations entre votre entreprise, ce groupement d'associations et le PTCE. Et comment tout ça fonctionne en fait sur le territoire.
En fait, le flou que vous décrivez, Patrick, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, comme tout est lié, chaque chose ne doit pas être dans un silo séparé, bien distinct des autres. Donc, Annabelle Group est un groupe d'entreprises au départ tout à fait classique et que progressivement j'ai transformé en un groupe d'entreprises partagées hein, puisque sur les sociétés d'exploitation maintenant les salariés sont majoritaires par un jeu de distribution gratuite de parts. Donc je m'estime un petit peu dans ce no man's land, dans cette zone frontière entre l'économie classique et l'économie sociale et solidaire, et que cette prise de conscience du fait qu'on ne peut pas séparer en fait l'entreprise de son territoire, parce que je ne crois pas au mythe du self-made man, hein, de celui qui se ferait tout seul. Une entreprise pour se créer, elle bénéficie du territoire, des infrastructures, elle bénéficie des routes, des hôpitaux, des écoles. Donc quand elle recrute, elle se doit aussi de contribuer à améliorer, hein, parce que on peut pas se plaindre des conséquences sans accepter d'agir sur les causes. Donc, si on dit qu'on n'arrive pas à recruter parce que l'éducation nationale ne forme pas des gens à la hauteur, il faut peut-être s'impliquer aussi dans l'éducation nationale pour changer les systèmes. C'est ce que Annabelle Group fait depuis très longtemps. Et par ce biais-là, j'étais amené à construire le conseil de développement de l'agglomération montargoise, et là où on est basé, avec des impacts, avec des ambitions à la fois environnementales et à la fois sociétales et d'insertion. Et puis, chemin faisant, le besoin d'aider les entreprises à anticiper ces mutations sociales et écologiques, donc la création de Percé3C. Et dans la création de Percé3C, on a fait des projets justement de développement d'économie circulaire où on s'est dit... il y a pas mal de déchets qu'on devrait pouvoir réutiliser ici localement. Il y a des besoins, il y a des gens qui ont besoin d'ordinateurs, par exemple, et les entreprises ont des ordinateurs qui sont tout à fait utilisables pour des besoins particuliers. Donc, on a fait un système de collecte d'ordinateurs et d'équipements électroniques en général, d'ailleurs. Et on a mis les acteurs du territoire en ordre de bataille, donc que ce soit des associations citoyennes, que ce soit... des associations d'insertion ou même le syndicat de traitement des ordures ménagères. On a organisé toute cette filière-là pour que les ordinateurs, ceux qui sont encore réutilisables, soient reconfigurés et fournis à l'époque à des collégiens pendant le Covid qui ne pouvaient pas suivre les cours parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à la maison. Mais maintenant, c'est un peu plus général. C'est tous les gens qui sont de l'autre côté de la fracture numérique. Et avec le développement maintenant de médiateurs numériques, il y a tout un système autour de ça. Et puis, ce qui n'est pas récupérable, on a un chantier d'insertion qui fait le démantèlement. Ce que je dis pas, c'est que la reconfiguration, ce que j'ai oublié de dire, la reconfiguration des ordinateurs est faite par des autistes, donc qui sont aussi.
Et une vraie circularité en fait de l'ensemble en fait.
Proche de la majorité, donc proche de voir sortir des établissements dans lesquels ils sont et donc c'est un pied à l'étrier pour trouver un emploi. Donc on travaille autour de ça. Et puis ce qu'on a fait, on l'a fait avec toutes les associations locales et à un moment donné, on travaillait entreprise association ensemble. Ça c'est un peu la définition d'un PTCE. Donc on a postulé et on a été lauréat et on a donc eu le financement du ministère. Et donc ce PTCE, c'est Ciel, hein, circularité, inclusion et économie locale.
Donc, comment les politiques perçoivent ça? Parce que finalement, ce que vous nous dites là, on a presque envie de dire, c'est presque une réflexion d'un programme politique pour un territoire. Est-ce à dire aujourd'hui que le PTCE, l'entreprise Annabelle Group, le Percé3C, finalement, fait le travail de réflexion de développement territorial que devraient faire peut-être les politiques de vos territoires?
Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure hein, sur les petits et moyens territoires. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément... les élus n'ont pas forcément les compétences pour bien identifier les choses. Et puis, on sort aussi d'un système où on croyait que l'élu était omnipotent, polycompétent, etc. Et que c'est difficile aussi, cette transition est en train de se faire, où il faut que l'élu accepte de ne pas avoir toutes les compétences et de pouvoir s'encadrer de toutes ces compétences. Alors, pour tout vous dire, sur le territoire, c'était un petit peu entre les deux, puisque en fait, je vous dis, j'ai monté le conseil de développement de l'agglomération à la demande des élus. Donc, il y avait bien quand même une interaction hein, de choses qui se sont faites. Et puis, quand on a monté à la fois PERCE3C et le PTCE, c'était d'autres élus à un autre moment avec d'autres parcours. Et du coup, ça a été plus difficile de travailler, mais ils ont fini par y venir parce qu'ils voyaient le résultat, justement. L'impact se voit et aujourd'hui, ils soutiennent les actions.
Alors, Franck, vous êtes plutôt orienté économie sociale et solidaire. D'ailleurs, la loi ESS fête ses 10 ans cette année. Et d'ailleurs, celui qui a écrit la loi devient président d'ESS France au mois de juin prochain. Il vient juste d'être élu, Benoît Hamon. Est-ce que vous avez le sentiment que l'ESS est plus cohérente à travailler avec les acteurs territoriaux? Et je disais en introduction, est-ce que c'est compliqué quand on est de l'économie sociale et solidaire de coopérer avec des entreprises plus classiques? On a toujours l'impression que les unes et les autres se regardent avec un biais en disant vous avez rien compris, vous êtes des philanthropes, nous on crée de la valeur ajoutée alors que vous pas.
Alors non, moi je pense qu'on n'a pas trop de difficultés à dialoguer avec tout type d'entreprise, surtout au niveau des territoires. Je dirais qu'on est plutôt d'ailleurs un créateur de liens. Du fait notamment de notre appartenance à l'économie sociale et solidaire. Effectivement, les collectivités locales, elles toutes seules, ne peuvent pas faire vivre les territoires sur des enjeux ESG. C'est l'animation au sein des territoires des enjeux de durabilité ne peut être réalisée que à partir du moment, et c'est ce qu'essaye de promouvoir l'ESS, à partir du moment où il y a un dialogue à la fois entre les collectivités locales, les entreprises, et les citoyens, et c'est justement ce triptyque-là qui fait vivre l'innovation au sein des territoires. Et donc notre mission justement à nous, c'est d'à la fois être, déjà d'avoir nos représentants des assurés dans les territoires, qui ont pour mission à la fois parfois même de financer et d'inciter des comités ou même d'accompagner même financièrement les CRES, les chambres régionales économiques, pour créer du lien entre les entreprises, les besoins des citoyens et puis être un maillage supplémentaire pour accompagner les collectivités locales. Et je pense que en fait nous on est plus là en tant que facilitateur de solutions financièrement, parce que bien sûr on a un poids financier important qu'on peut mettre à disposition justement de ces projets humains. Et c'est là tout l'intérêt. Mais il n'y a pas d'opposition avec les entreprises. Au contraire, il y a plutôt une co-construction avec les entreprises dites traditionnelles.
Votre concurrent est néanmoins ami, je l'espère. Pascal Demurgé disait que les entreprises devaient avoir un rôle politique. L'entreprise sera politique ou ne sera pas. Comment vous réagissez à ça? Il faut aujourd'hui que les entreprises prennent conscience qu'elles ont, à défaut d'avoir un rôle d'élu, un rôle politique sur leur territoire fort?
Alors, plutôt qu'un rôle politique, je dirais une responsabilité d'impact. Parce que le terme politique peut être galvaudé ou peut être mal compris, alors que la notion d'impact positif est quelque chose de plus engageant. Alors bon, Maïf est une entreprise à mission. Le groupe AEMA est une entreprise avec un objectif lié au projet humain. La finalité du gain n'est pas une fin en soi pour ces structures mutualistes. Et puis, en tous les cas, il est certain que, sans parler du terme politique, on fait de la politique sans vouloir. Il faut savoir qu'au conseil d'administration d'AEMA, on a la société civile dans le conseil d'administration. Donc à partir de là, on passe notre temps à débattre et à faire société pour pouvoir faire avancer les choses.
Luc, quels sont pour vous, on arrive un peu au terme de cet échange, on aurait certainement plein d'autres choses à se dire encore, mais quels sont pour vous, pour bien coopérer dans un territoire, pour que les entreprises viennent bien, prennent bien conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir et qu'on ne leur fasse pas découvrir au fur et à mesure, quels sont les leviers qui, selon vous, sont à actionner?
Bon, déjà, une bonne coopération est basée sur la confiance. Et la confiance, c'est pas, ça se décrète pas, c'est pas quelque chose où on claque des doigts. C'est vraiment un apprentissage long. Et pour créer de la confiance, il faut faire du don. Le don, c'est pas forcément du don financier, hein. C'est du don de courage, du don de volonté, du don de soi, du don d'heure, de temps. Et donc, bah oui, il faut aussi investir du temps en réunion. Il faut investir un certain nombre de choses pour faire du lien, comme disait Franck tout à l'heure. Hein, moi, c'est exactement ce que je dis. Moi, j'ai toujours dit, j'étais un effondreur de murs et un bâtisseur de ponts. C'est vraiment l'ambition. Et bah nous, on est dans la nouvelle étape pour le PTCE. Hein, c'est sa pérennité au-delà du financement du ministère. Et on est justement dans la phase de création d'une fondation de territoire qu'on veut extrêmement ancrée, donc qui sera financée. Enfin, les membres fondateurs sont toutes des grosses PME ou ETI locales, implantées localement, et que on cherchera des grands groupes qui veulent aider les projets locaux. Donc Un appel du pied à Franck.
Alors justement, Franck, pour vous, c'est quoi les chantiers qu'il faut ouvrir, les leviers à actionner pour arriver à ce que l'ensemble des territoires, parce que tous les territoires, chaque territoire est unique, donc il y a forcément des inégalités de territoire et des inégalités dans les territoires. Et vous couvrez l'ensemble des territoires. Donc, quels sont pour vous, de votre côté, Franck, les leviers, les chantiers qui sont en cours, les leviers à actionner?
Ben déjà, c'est être en capacité de bien identifier l'ensemble des acteurs du territoire. Et ça prend du temps. De les identifier, de les réunir, c'est ce qu'on essaye de faire régulièrement dans le cadre de nos appels à projets. Notamment, dans chaque territoire, on fait des appels à projets sur des thématiques bien dédiées et qui nous permettent de sélectionner et d'encourager l'innovation. C'est également ce que l'on fait lorsqu'on réalise ce qu'on appelle des cafés mutualistes ou alors des actions de prévention dans lesquelles on réunit à la fois des entreprises, des collectivités locales et puis des assurés, où on essaye de créer du lien pour pouvoir identifier justement les innovations possibles qui seront demain duplicables dans une autre localité. Mmh. On a beaucoup de facilité sur ces sujets sur le champ des zones blanches de mobilité et la mobilité inclusive. Mmh. C'est une chose dont on n'a pas évoqué encore, mais il faut savoir que l'inclusivité, c'est quelque chose d'important dans le cadre de la transition juste, c'est-à-dire bien sûr l'accès à l'assurance pour tous, mais l'accès à tous les besoins dans les localités, ça peut être déjà un bon début d'être en capacité d'identifier ces besoins-là.
Je vois Luc qui se redresse, je sens que vous voulez apporter un complément, Luc, à ce que vient de dire Franck.
Non, mais effectivement, nous sommes un territoire, alors on a une agglomération de 70 000 personnes, mais on couvre aussi un territoire qui est très, très rural, hein, qui est le Gâtinais-Montargois, et que la question de la mobilité, je rebondis dessus, est essentielle. Donc, au sein du PTC, on a créé une association de vertueuses, maintenant, de récupération de vélos, de réparation et de revente, et pour favoriser aussi la mobilité des personnes qui sont loin de l'emploi, hein, parce que les transports en commun sur l'agglomération sont... Pour une agglomération de notre taille, ils sont plutôt bien desservis. Mais dès qu'on en sort, ça devient vraiment problématique.
Merci beaucoup, Luc Bélière. Merci beaucoup, Franck Janowski, d'avoir été nos invités du dossier. Nous, on fait une micro-pause et on retrouve tout de suite Philippe Jouani. Philippe Jouani est président de la Fédération des acteurs de la propreté. Et avec lui, on évoque comment un secteur d'activité comme la propreté peut être acteur de son territoire et travailler à la territorialisation des transitions.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
7 minutes pour changer le monde avec vous, Philippe Jouani. Vous êtes président de la Fédération des acteurs de la propreté. Bienvenue à vous, Philippe Jouani. Bonjour.
Bonjour à vous.
Rappelez-nous un petit peu ce secteur du monde de la propreté. Si j'en crois les chiffres que j'ai devant nous, c'est 603 000 emplois en 2023, 15 000 entreprises en France, 10 000 emplois créés nets. C'est énorme finalement ce secteur ne semble pas comme ça, qui semble invisible. Il fait partie de ces secteurs invisibles, pourtant primordiaux et qui touchent une quantité de personnes absolument phénoménale.
Ben écoutez, d'abord merci de me laisser la parole. Oui, effectivement, c'est un secteur, vous le disiez, primordiaux, et effectivement même. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, malheureusement, mais nous étions ce que l'on appelait les essentiels, et néanmoins les invisibles, comme vous le dites à juste titre, mais essentiels en tout cas pour la nation. Et je parle là, bien entendu, des 600 000 salariés et des 15 000 entreprises qui sont et qui ont plusieurs caractéristiques, dont une notamment, c'est d'être des métiers de proximité non délocalisables, donc présents sur l'ensemble des territoires nationaux, y compris d'ailleurs dans les DROM, mais ça veut dire que dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque grande ville aussi, voilà, nos salariés sont présents et participent pleinement, voilà, à l'activité, à l'économie, à la vie sociale, à la vie sociétale et à l'environnement, bien entendu, sur tous ces territoires. Donc 10 000 emplois nets par an, donc on participe grandement en tout cas à l'activité économique et sociale et d'emploi de notre pays.
Je dois vous avouer que j'aborde très souvent cette question de la RSE. La RSE au niveau des entreprises, j'en entends beaucoup parler. L'intégration de la notion de RSE au niveau d'une fédération d'acteurs et d'un secteur, c'est beaucoup plus rare.
Alors, écoutez, on a été pionniers. C'est une histoire presque ancienne maintenant pour nous, puisque on a initié le mouvement qui nous a conduit tout naturellement à la RSE et à la RSE sectorielle, j'y reviendrai bien sûr, on l'a initié dès 2009. Donc, vous voyez, bien avant, même avant le premier Grenelle de l'environnement. Et à l'époque, on était sur une partie qu'on appelle le développement durable et sur lequel on a décidé d'engager l'ensemble des entreprises de la propreté. Et donc, cette histoire ancienne nous a conduit tout naturellement à passer du développement durable dans les années 2010, voilà, à une démarche de RSE assez récemment et puis très récemment. Et on est la première branche à s'être engagée et à avoir engagé nos entreprises dans une démarche de RSE sectorielle avec l'appui notamment et puis l'accompagnement de l'AFNOR. Donc une démarche très ancienne que nous avons soutenue au niveau fédéral, c'est une originalité en tout cas de notre secteur d'activité ou notre syndicat patronal, c'est d'avoir donné les moyens de former sans reste à charge pour les entreprises l'ensemble des entreprises qui voulaient s'engager, qui se sont engagées
et alors,
à la suite. Voilà.
Alors, dans ce référentiel, il y en a 18, hein, ce qui est absolument phénoménal. Comment les entreprises ont-elles accueilli cette démarche, qui est une démarche qui est quand même, même s'il n'y a pas de reste à charge, qui est une démarche engageante, parce qu'il faut pouvoir qu'elles aient le temps, ces patrons, de s'engager dans cette démarche. Comment ça a été perçu? Quel était l'impact de cette décision sur les entreprises?
Ben, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça n'a pas été un engagement timide. Alors, c'est en ça que, c'est, que notre secteur, et on n'est pas le seul, hein, mais que notre secteur est assez atypique, lui encore, parce que la quasi-totalité des chefs d'entreprise, TPE, PME, voire même grandes entreprises, voilà, ce sont des entreprises patrimoniales. Donc, ça part à chaque fois d'une démarche individuelle du dirigeant et toute la logistique à mettre en place, une logistique de déploiement au sein de l'entreprise et puis de déploiement, bien entendu, à travers le staff d'entreprise, mais jusqu'aux salariés de terrain qui sont les premiers impliqués, en tout cas, dans la démarche. Donc, c'est une démarche qui fonctionne, qui a fonctionné, qui fonctionne encore plutôt bien. Nos emplois sont des emplois dans les territoires. Je le disais tout à l'heure, je le redis, dans chaque ville, dans chaque village, voilà, nous avons des salariés de la propreté qui y sont présents. Donc l'ancrage territorial est pour nous une évidence. Et d'ailleurs, notre syndicat patronal, la Fédération des entreprises de propreté, elle aussi des représentations qui sont territoriales.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes extrêmement précis aussi dans les différents niveaux. Il y a 4 niveaux dans cet engagement 18, avec, je vois, adhésion à des associations locales qui contribuent à répondre aux enjeux des entreprises de la propreté, mais aussi du sponsoring d'associations, organiser, être présent sur des portes ouvertes, à des forums qui sont liés au territoire. Bref, c'est extrêmement concret. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de mesurer un peu l'impact de ces quatre niveaux d'implication du territoire des entreprises de la propreté?
Oui, oui. On a effectivement des résultats d'entreprise de propreté sur l'engagement 18, voilà, avec un score d'entreprise de propreté. Alors, sur des notes qui sont auto-déclarées, voilà, et qui donnent un score de 50%, donc 50 sur 100. Et puis, une note contrôlée qui, elle, est un peu différente, puisqu'elle est de 73 sur 100. La différence majeure entre la note déclarée, d'ailleurs, et la note contrôlée signifie simplement que le secteur de la propreté est très performant sur le sujet, mais que beaucoup d'entreprises n'en ont pas encore conscience. On est un c'est peu ça. Alors ça, c'est classique du monsieur Jourdain c'est qui ça. Fait de la prose sans le savoir.
On l'a évoqué il y a quelques heures.
On n'y échappe pas. c'est assez habituel dans une fédération telle.
Mais j'ai presque envie de dire au-delà même d'une fédération, parce qu'on l'évoquait avec il y a quelques instants avec Luc Bélière et avec Franck Janowski, l'entreprise, l'entrepreneur, l'entrepreneuriat sur son territoire a très rarement conscience, a tendance à sous-évaluer son action et son impact sur le territoire, même si quelque part elle a la volonté d'impacter. Et ce qui est intéressant, justement, et vous faites bien de le souligner, c'est que au travers justement de cette action mise en place par votre fédération, Philippe Jouani, on peut prouver aujourd'hui cette notion, parce que on peut la sentir. Aujourd'hui, vous avez mesuré qu'entre l'autodéclaration et le contrôle, en fait, on s'aperçoit que quand on contrôle, eh bien, on impacte plus que quand on autodéclare.
Oui. Vous avez parfaitement raison. Je rajouterai, si vous le permettez, un point quand même, parce que moi le premier, d'ailleurs, j'ai tendance à beaucoup parler de l'entreprise, et c'est aussi mon rôle, mais je n'oublie pas les salariés. Parce que on est toujours très agréablement surpris par l'engagement aussi sociétal que peuvent avoir les salariés, notamment en matière de RSE.
Quels sont aujourd'hui les défis qui vous restent à relever, Philippe Jouani, dans ce secteur et dans cette implication, cette action sur les territoires?
Notre enjeu majeur aujourd'hui, c'est de transformer pour nos salariés, à destination de nos salariés, le travail qui aujourd'hui est un travail, j'allais dire, morcelé. Nos salariés ont l'habitude de travailler tôt le matin et tard le soir parce que nos clients nous imposent cette donne. Voilà. Donc, notre enjeu majeur aujourd'hui, notamment à l'égard de l'acheteur public, c'est de faire en sorte que nos salariés puissent travailler en continu et en journée. Ce qui s'est d'ailleurs produit pendant la crise sanitaire, hein, parce que nos clients nous l'ont exigé. Voilà. Donc il faut qu'on change ce modèle social et sociétal de manière à pouvoir mettre en adéquation d'une manière beaucoup plus heureuse, voilà, la vie de nos salariés, la vie familiale, la vie professionnelle, et faire en sorte qu'on puisse encore plus investir pour eux, notamment dans la formation. Enfin, ouais, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais voilà, c'est un enjeu qui pour nous est aujourd'hui un enjeu maximal et qui répond bien aussi à une logique environnementale, hein. Je rappelle que vous l'avez dit tout à l'heure, 600 000 salariés qui effectuent 2 ou 3 trajets par jour aller-retour pour aller à leur lieu de travail. Là encore, en termes de RSE, et notamment de RSE environnementale cette fois-ci, on a un impact sur la mobilité qui est extrêmement important et qu'il faut améliorer sensiblement.
Il y a quelque chose aussi de la marque employeur. Il faut pouvoir aussi attirer dans ce secteur, Philippe Jouani.
Bien sûr, la problématique d'attractivité dans notre secteur, comme dans d'autres d'ailleurs, est particulièrement pertinente, en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc on a besoin là aussi d'adapter, et puis je rajouterais à ce que vous venez de dire, qui est parfaitement juste, aussi le fait de pouvoir offrir à nos salariés, ou les faire accéder en tout cas, à un volume de salaire qui soit plus important, parce que travailler à temps partiel ou travailler à temps complet, pour nos salariés, c'est aussi un besoin et une demande. Et puis c'est aussi une reconnaissance, voilà, comme vous le disiez, sociale, sociétale, et un pouvoir d'achat. Et en pouvoir d'achat, c'est aussi extrêmement important pour eux.
Merci beaucoup, Philippe Jouani, d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il est temps de se quitter pour mieux se retrouver. La semaine prochaine, c'est un portrait d'entrepreneur que je vous propose et on partira à la rencontre d'un chercheur entrepreneur. Il s'agit de Franck Zahl. Le biomimétisme, ça vous parle? C'est quand on observe la nature et qu'on en déduit des projets business, entrepreneurial et industriel. On verra tout le parcours de Franck Zahl. Il sera notre invité de la semaine prochaine. Bonne écoute des programmes de RCF. À très bientôt. Au revoir.